Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des mutineries dans la police en Bolivie, Evo Morales évoque un coup d'État correspondance d'Alice Campagnol. Un pas vers la paix sur le front dans l'est de l'Ukraine, précision de Claude Brouillot. Un tsunami démocratique en Catalogne à la veille des législatives en Espagne, vous saurez tout grâce à Isabelle Labéry. Et puis les 30 ans de la chute du mur de Berlin, après les discours, les festivités, nous serons en direct de la porte de Brandebourg avec Ludovic Piétenu. La réélection controversée d'Evo Morales ne passe pas sans relâche. L'opposition mobilise ses partisans et les mécontents du dernier mandat du président accusé de fraude. 3 morts et 200 blessés ces 3 dernières semaines en Bolivie. Ce matin, des mutineries d'au moins 3 compagnies de police. Evo Morales dénonce un coup d'État et la colère gagne La Paz, la capitale d'où nous appelle Alice Campagnol.
Des policiers entourés et protégés par des manifestants demandant un ravitaillement en cigarettes, pain et feuilles de coca. C'est ce que l'on peut voir dans le centre de La Paz. Aujourd'hui, plusieurs unités de police de la ville se sont mutinées, imitant ainsi les forces de l'ordre de Santa Cruz, de Cochabamba, de Tarija, de Potosí et d'Oruro. On a vu des policiers sortir de leur commissariat, brandir des drapeaux boliviens et affirmer ne plus vouloir réprimer les manifestations. Pour les citoyens opposés à Evo Morales, descendus dans les rues, la victoire est proche.
Maintenant, il faut attendre la réaction du gouvernement et on espère qu'elle sera démocratique et qu'Evo Morales se retirera pacifiquement.
À La Paz, les portes du palais et de gouvernement sont restées fermées ce matin. Les forces de l'ordre en charge de leur surveillance se sont retirées. Si les manifestants refusent d'occuper la place principale, le kilomètre zéro, pour ne pas créer la panique, disent-ils, le gouvernement dénonce un coup d'État. Mais pour les Boliviens dans la rue aujourd'hui, la réalité est tout autre.
C'est n'importe quoi de dire que l'on est en train de faire un coup d'État. Nous sommes ici sans violence, de façon pacifique, nous n'avons pas d'armes, même pas de pierres, nous n'avons rien, seulement le drapeau bolivien.
Tout le pays est dans l'attente, il se pourrait que la Bolivie vive un moment clé de son histoire.
Accord en Irak entre les principales forces politiques en présence, accord avec pour dénominateur commun l'urgence d'en finir avec la contestation, je cite, par tous les moyens, fin de citation, 7 manifestants tués ce samedi à Bagdad et Bassora. Ce matin, la Cour suprême indienne a autorisé la construction d'un temple hindou sur le site d'Ayodhya, ce lieu sacré pour les hindous. Situé dans le nord de l'Inde, est l'objet de tensions avec la communauté musulmane, notamment depuis 1992, lorsque des militants nationalistes religieux ont détruit la mosquée Babri qui datait du XVIe siècle. Cet arrêt de la plus haute juridiction sert l'argumentaire du parti gouvernemental et le nationalisme du président Narendra Modi au risque de nier, d'abîmer les fondements politiques du pays, selon Ingrid Tervat, spécialiste de l'Inde.
La tension va être très vive. Pour l'instant, les associations musulmanes ont dit qu'elles n'étaient pas du tout d'accord avec le verdict. On s'attend à une grande tension, sans doute des petits affrontements. On ne sait pas très bien. Tout ce qu'on sait, c'est que la question d'Ayodhya et de ce temple et de cette mosquée ont donné lieu à des grands affrontements intercommunautaires. Et on fait beaucoup de morts dans les années 90 notamment. Ça a été le point de départ de la flambée nationaliste hindoue en Inde qui a porté le BJP au pouvoir en 2014, puis en 2019 avec Modi pour un second mandat. Puis surtout ce que ça dit, c'est que c'est la victoire de la majorité hindoue sur la minorité musulmane. C'est une grande victoire politique pour Narendra Modi qui avait fait de ce point, le temple d'Ayodhya, un point majeur de son programme électoral pour sa réélection en 2019. Finalement, l'Inde qui doit être un pays laïque et protégé de façon équitable, toutes les religions, s'achemine de plus en plus vers une idée de l'Inde qui est d'abord et avant tout un pays hindou. On est loin donc des idéaux qui ont présidé à la rédaction de sa constitution. Après la destruction de la mosquée Babri, le 6 décembre 1992, il y a eu énormément de violences avec des conséquences sociales, politiques à long terme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'époque n'est pas la même, les musulmans n'en sont plus à leur première brimade. Puis c'est difficile de prévoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une humiliation de plus.
Ingrid Tervat, titulaire d'un doctorat de sciences politiques sur l'Inde avec Adrien Paluet. Est-ce un pas significatif franchi par les belligérants dans l'est de l'Ukraine, un pas vers un sommet qui pourrait sceller la paix? Il s'agit en jargon diplomatique de la dernière précondition avant d'ouvrir des discussions à quatre avec dans le rôle des médiateurs la France et l'Allemagne, les séparatistes de la République autoproclamée de Donetsk et l'armée ukrainienne ont en effet accepté de faire reculer leur position d'un kilomètre de part et d'autre de la ligne de front. Les précisions de Moscou, de Claude Bouillot.
Le représentant de la Russie dans le processus de négociation de paix dans le Donbass, Boris Gryzlov, s'est félicité cet après-midi auprès de l'agence officielle TASS de l'entame réussie de ce troisième retrait simultané de troupes. Cette réaction russe valide en quelque sorte la démarche engagée aujourd'hui. Mais pour autant, si l'opération se présente mieux que lundi dernier, où elle avait dû être reportée à cause d'une énième rupture du cessez-le-feu, elle ne se terminera officiellement que lundi, à la mi-journée, lorsque les deux camps, pour l'ensemble du matériel et des troupes concernées, auront fait constater par les observateurs de l'OSCE sur place leur nouvelle position. Préfigurant ce troisième retrait, exigé par le Kremlin avant de participer à un nouveau sommet sur le Donbass, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait officiellement informé dès hier le chef de mission de l'OSCE du succès des deux premiers retraits en soulignant que ces opérations se déroulaient, je cite, « malgré une situation difficile ». Référence évidemment à la forte pression d'une partie de la population ukrainienne et pas seulement les nationalistes qui se déplacent sur les points de retrait, opposés tous à ces abandons de position militaire, car perçus comme une forme de capitulation vis-à-vis de la Russie. Si ce troisième retrait va jusqu'au bout, toute la question sera de savoir ensuite sur quels aspects précis portera le sommet à quatre qui doit suivre. Jusqu'où les questions essentielles sur le statut spécial du Donbass, la tenue d'élections locales libres sur place ou encore la reprise par l'Ukraine du contrôle de sa frontière avec la Russie seront abordées ou non.
Claude Bruyot à Moscou, quand Donald Trump rend hommage à l'un des plus précieux alliés des États-Unis, Emmanuel Macron appelle à être digne de la promesse d'il y a 30 ans. Deux déclarations venues alimenter une journée de commémoration, 30 ans jour pour jour après la chute du mur. Journée donc très solennelle à Berlin. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Mathieu.
Vous êtes très précisément Bernauer Straße. Ludovic, des commémorations et cette fois place aux festivités.
C'est ça, ça va être la fête parce que ce 9 novembre est un jour quand même assez dingue dans l'histoire allemande. C'est un jour positif ce 9 novembre 89, mais ils n'ont pas toujours été le cas. Le 9 novembre 38 par exemple, c'était les pogroms contre les juifs, c'était la nuit de cristal. Le 9 novembre 23, c'était le putsch de Hitler. Donc les Allemands veulent vraiment faire de ce 9 novembre 89 et donc de ce jour anniversaire de ses 30 ans une soirée positive. Avant cela, c'était vraiment le recueillement, le symbole, par exemple le français, le violoncelliste Gauthier Capuçon qui a choisi de reproduire ce qu'avait fait Rostropovitch au pied de Checkpoint Charlie, au pied du mur il y a 30 ans. Vous l'entendez, cette musique, beaucoup d'émotions, des gens presque aux larmes. Et il y avait dans la foule Jean-François qui est à Berlin exprès pour ce week-end.
Je suis venu pour être au plus près de l'événement des 30 ans de la chute du mur. Ça n'est pas un événement sans conséquence pour toute la suite de l'histoire, la fin du XXe siècle. Donc c'était important d'être là. Et en particulier ici, sachant que Gauthier Capuçon devait jouer au pied du mur dans une sorte d'écho et d'hommage à Rostropovitch. Le symbole était magnifique et il nous a servi un petit concert merveilleux. Des morceaux d'une grande douceur. Des messages d'amour et d'harmonie, de paix. Je pense que c'est essentiellement cela qu'il voulait faire passer à travers sa musique. Il l'a très bien fait.
Et à l'amour, à la paix, il faut ajouter aussi la liberté. C'est quand même cela qu'ont gagné par eux-mêmes les Allemands de l'Est il y a 30 ans en faisant tomber ces murs. La paix, la liberté, ce sont aussi des notions qui ne sont pas si évidentes, a dit un peu plus tôt dans la journée, sur cette Bernauer Straße, au mémorial des murs, des morts du mur, la chancelière allemande Angela Merkel.
Merci à vous Ludovic Piétenu, avec à vos côtés pour les moyens techniques Alexandre Abergel. mondiale. Réflexion online en Espagne à la veille des législatives. Réflexion lancée par la plateforme Tsunami Démocratique un peu partout en Catalogne. Un nouveau mode de mobilisation via les réseaux sociaux qui s'adresse à une jeunesse ultra connectée et affiche déjà près de 400 000 abonnés. En France, moins de 24 heures après qu'un étudiant de Lyon 2 s'est immolé par le feu en pleine rue devant le bâtiment du Crous lyonnais, le syndicat solidaire étudiants-étudiantes Lyon appelle à manifester devant ce même bâtiment mardi prochain, selon le syndicat. Ce jeune homme a commis, je cite, « un geste profondément politique ». Fin de citation. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'est rendue ce matin même à Lyon pour rencontrer la présidente de l'université. La météo de demain, en quelques mots, temps encore perturbé, nuageux et humide, avec des pluies soutenues sur le Pays Basque et de fortes pluies sur la Corse. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon et à la technique Jacques Mantaigne.